Bien, je vous propose de commencer le séminaire et j'ai un très grand plaisir aujourd'hui, celui d'accueillir Anne-Christophe, qui est directrice du laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques du CNRS, un laboratoire qui a une histoire qui s'échelonne sur plus de 25 ans, je pense, et un laboratoire qui a été fondé par Jacques Meller, qui était le patron de thèse d'Anne-Christophe, le mien également, celui de beaucoup de personnes qui sont sur la scène des sciences cognitives françaises actuellement. Alors Anne fait partie donc des personnes qui ont été formées par Jacques Meller, issue au départ de l'école polytechnique. Elle s'est spécialisée en sciences cognitives. Elle a obtenu la médaille de bronze du CNRS pour ses travaux sur l'apprentissage du langage dont elle va nous parler aujourd'hui. Elle dirige un laboratoire d'une trentaine de personnes qui est aujourd'hui donc à l'école normale supérieure après avoir été à l'école des hautes études en sciences sociales, boulevard Raspail à Paris. Laboratoire qui est à la pointe des recherches en sciences cognitives actuellement, qui s'insère dans le département d'études cognitives de l'école normale supérieure dirigé par Christian Lorenzi. Ce département d'études cognitives qui vient d'obtenir la mention de laboratoire d'excellence, l'ABEX. Ce sont donc des collègues tout à fait excellents que nous accueillons de l'école normale supérieure et c'est effectivement tout à fait justifié. C'est un laboratoire qui a un rayonnement international considérable pour la recherche en sciences cognitives, la réflexion philosophique sur les applications des sciences cognitives et également la réflexion sur le mode de fonctionnement du cerveau avec des personnalités très diverses. On peut mentionner par exemple Étienne Quéclin, Anne-Lise Giraud et bien d'autres qui sont membres de ce département d'études cognitives. Donc aujourd'hui, Anne-Christophe va nous parler spécifiquement du sujet du séminaire. J'ai choisi comme sujet du séminaire le nouveau-né, le bébé, ce qu'il sait, ce qu'il apprend. La question fondamentale, c'est de comprendre comment dans la première ou les premières années de la vie se met en place un système cognitif extrêmement riche sur la base, comme on l'a dit auparavant, d'informations minimales. Il s'agit donc de faire la distinction entre ce que le cerveau du bébé amène à l'apprentissage et ce qui est appris. Et nous allons le découvrir aujourd'hui dans le domaine de l'apprentissage de la syntaxe. Je voudrais remercier à nouveau Anne-Christophe d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici pour vous parler donc de l'acquisition de la syntaxe et merci beaucoup à Stan de Han de m'avoir invité aujourd'hui. Donc je vais démarrer par une petite introduction très générale sur ce qu'est le langage. Et donc le langage humain, on dit que c'est un système productif ou génératif, vous avez entendu ce terme tout à l'heure. Ça veut dire en fait qu'à partir d'un nombre d'unités de sens restreintes, donc les unités de sens c'est les mots ou les morphèmes pour prendre un terme plus savant disons, donc, à partir d'un ensemble de mots qui est limité, on peut fabriquer un ensemble infini de phrases. Donc, les mots du lexique, ici, on pense qu'on en a environ 50 000 à 100 000, nous les êtres humains. Hein, donc, il y en a beaucoup, mais c'est un nombre fini. Et alors, juste pour vous illustrer la manière dont on trouve le sens d'un mot, c'est effectivement une relation arbitraire entre le son et le sens. Ici, j'ai mis un mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire, que moi-même je ne connaissais pas, c'est coxigrue. Donc vous n'avez aucun moyen de deviner son sens si vous ne connaissez pas déjà ce mot. Voilà, c'est juste pour illustrer, c'est une sorte de blague. Et par contre, pour les phrases, vous voyez que ici j'ai mis une phrase que vous n'avez probablement jamais rencontrée. Hein, le livre racontait l'histoire d'un chat grincheux qui avait mordu un facteur. Vous connaissez tous les mots de la phrase, vous connaissez la syntaxe du français, vous n'avez aucune difficulté à reconstruire l'image qui correspond à cette phrase. Et donc effectivement, le nombre de phrases ici est infini, puisque voilà une phrase nouvelle. La plupart des phrases que vous rencontrez tous les jours sont nouvelles. Et alors, juste pour vous illustrer qu'il s'agit bien d'un calcul et pas d'un simple amalgame du sens des mots qui sont dans la phrase, là, j'ai juste échangé deux mots. Et maintenant, c'est le facteur qui a mordu le chat. Vous voyez que l'histoire est complètement différente. Okay ? Et donc, ces règles syntaxiques, celles qui nous permettent de passer du sens des mots au sens de la phrase, sont des règles qui sont très compliquées, très complexes et partagées par toutes les personnes qui parlent la même langue. Alors, je vais juste vous illustrer ça très brièvement avec un exemple. C'est les règles qui régissent le calcul de la coréférence des pronoms. Alors les pronoms, c'est ces petites choses comme il, elle, on, etc., qui vont nous servir à remplacer un mot qu'on a déjà dit avant, de manière à ne pas le répéter. Alors ici, on a une phrase simple. Pierre a dit à Paul qu'il partirait demain. Et si on cherche qui est il, donc il ici, on sait juste que c'est un masculin singulier. Il se trouve qu'on a deux personnes qui correspondent avant, il y a Pierre et il y a Paul, et il pourrait correspondre aux deux. Hein, donc soit c'est Pierre qui part demain et il a informé Paul, soit c'est Paul qui part demain, en fait, et Pierre est en train d'ordonner à Paul de partir demain. Okay ? Alors, on pourrait se dire, bon ben, pour trouver l'antécédent d'un pronom, je cherche quelque chose qui correspond au genre à un nom masculin familier, masculin singulier qui est placé devant. Effectivement, si on garde cette phrase, ça colle toujours. Hein ? On a, il a dit à Paul que Jacques partirait demain. Cette fois-ci, vous voyez que il ne peut être ni Paul ni Jacques. C'est forcément quelqu'un d'autre qui aurait été mentionné dans le discours avant. Okay ? Donc, on pourrait penser, oui, qu'il faut que l'antécédent soit situé devant. Mais dans la phrase que vous voyez ici, qui n'est pas beaucoup plus compliquée, ça ne marche pas. Donc, on a le candidat qui l'a vu hier, n'a pas plu à Pierre. On voit cette fois-ci que c'est très bien, ça peut très bien être Pierre qui a interviewé le candidat et que ce candidat ne lui a pas plu. Par contre, ça ne peut pas du tout être le candidat qui s'est vu lui-même hier. Okay ? Donc, vous voyez là que, bien qu'on ait ici un truc masculin singulier qui soit placé devant le pronom, ça ne peut pas être l'antécédent du pronom. Alors que ce nom-là, qui est placé derrière, peut très bien être l'antécédent du pronom. Et ça, ça nous dit qu'il doit y avoir des autres contraintes sur le calcul des antécédents des pronoms. Ces contraintes, elles ont été étudiées par les linguistes. Je ne vais même pas essayer de vous expliquer ces principes linguistiques, je vais juste vous montrer qu'ils sont assez compliqués. Donc ça, c'est le principe C, en l'occurrence, qui marche en deux étapes. D'abord, il faut définir la notion de C commande. On dit que A, C commande B. Si le premier XP qui domine A contient B, vous voyez, ce n'est pas très clair. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que dans l'arbre syntaxique, le pronom ne peut pas être au-dessus de son antécédent, dans un certain sens de au-dessus qu'on doit définir avec ses commandes, qui n'est pas particulièrement simple. Et donc voilà, ce principe C dit qu'un pronom ne peut pas dominer son antécédent, ne peut pas être disposé au-dessus dans l'arbre syntaxique. Alors, donc pour le moment, on voit juste qu'il y a des règles compliquées. L'autre chose très intéressante, c'est que ces règles, elles sont apprises très très tôt par les enfants. En fait, elles sont apprises aussitôt qu'on arrive à les tester. Donc on n'a pas réussi à tester des enfants assez jeunes qui ne connaissent pas déjà ces règles. Et donc, évidemment, les enfants, on ne leur présente pas des phrases comme « le candidat qui l'a vu hier n'a pas plu à Pierre » en leur demandant si il peut être Pierre ou le candidat. Ça ne marche pas. Il faut être un peu plus malin que ça. Donc, les enfants leur racontent des petites histoires, par exemple avec Nounours, Nicolas et Pimprenelle. Et puis, à la fin de la petite histoire, avec des marionnettes et tout, il y a une poupée qui arrive et qui dit « ah, je sais ce qui s'est passé » et elle prononce une phrase. Par exemple, elle va dire « il a mangé des crêpes quand Nounours était dans la cuisine ». Et l'enfant doit juste dire « est-ce que c'est juste ou pas juste ?» Et ce qu'on voit ici, pour cette phrase-là, par exemple, c'est que si c'est Nounours qui mangeait des crêpes dans la cuisine, la phrase, elle est fausse. Par contre, si c'était Nicolas qui mangeait des crêpes pendant que Nounours était dans la cuisine, la phrase est vraie. Okay ? Donc, en fait, on va rendre la phrase vraie ou fausse en fonction de l'histoire qu'on a racontée avant. Et on va voir, est-ce que les enfants appliquent les mêmes contraintes sur la corréférence des pronoms que les adultes ? Et on va voir qu'effectivement, les enfants font ça. Donc, à l'âge de 3 ans, qui est le plus jeune âge auquel on arrive à faire ce genre de test, on voit que les enfants, déjà, appliquent des contraintes sur la corréférence des pronoms qui sont identiques à celles des adultes. Et de plus, ces règles de contraintes, enfin, ces contraintes sur le calcul des pronoms, sont les mêmes à travers toutes les langues du monde. Okay ? Et donc ça, c'est des travaux qui ont été menés en grande partie par Stephen Crane, un collègue américain. Et de ce type de réflexion, on conclut que certaines propriétés du langage sont innées. Alors, c'est le fameux argument de la pauvreté du stimulus qui a été fait par Noam Chomsky dans les années 50. Je vais vous le redire un petit peu plus en détail. Donc, voilà comment il marche. Il marche en plusieurs étapes que je viens de vous illustrer. La première partie, c'est que les calculs syntaxiques sont complexes et dans une grande mesure arbitraires. Donc, c'est ce que vous avez vu sur le calcul de la corréférence des pronoms. Les pronoms, c'est très utile, c'est comme des variables. On pourrait avoir des autres manières d'avoir des contraintes sur les variables. Dans la plupart des langues informatiques, on n'a pas du tout des contraintes sur les pronoms comme on a dans les langues humaines. Donc il y a ce côté arbitraire. Deuxièmement, tous les adultes qui parlent une même langue partagent les mêmes intuitions sur le sens des phrases. Donc elles ont les mêmes contraintes. Ensuite vient un point crucial, c'est celui qui est le plus discuté. Donc pour apprendre ce type de calcul, il faudrait avoir accès à une information très riche et très détaillée. Donc ici, par exemple, une représentation fine du sens des phrases qu'on entend pour pouvoir savoir dans quelles circonstances cette phrase est correcte, cette phrase est incorrecte. Or, les enfants aussi jeunes qu'on peut les tester partagent les mêmes intuitions que les adultes. Et donc, l'inférence ici, c'est de dire, s'ils ont les mêmes intuitions, c'est que quelque part, ces contraintes étaient déjà là à l'origine, au départ, encodé dans le bagage génétique. Alors cet argument, il est encore très discuté aujourd'hui. Donc avant de revenir sur la justesse ou le fait que ça soit juste ou faux, pourquoi il est discuté, juste un petit commentaire, parce qu'effectivement, quand on dit on n'a pas de procédure d'apprentissage assez puissante pour apprendre ça, ça dépend de la notion des procédures d'apprentissage dont on dispose aujourd'hui. On peut dire oui, dans les années 50, on pensait qu'on ne pouvait pas l'apprendre, mais aujourd'hui, grâce à Bayes, on pourrait peut-être apprendre aussi ces choses-là. Donc voilà, il y a toujours la question de peut-être avec une procédure d'apprentissage plus puissante, on arriverait à apprendre les choses en question. Mais donc, avant de passer par là, je voudrais juste faire une brève revue d'autres faits qui prouvent de manière, pour le coup, incontroversée que le langage est effectivement spécifique à l'homme, qu'il y a une base innée au langage. Ça va simplifier un peu la discussion après. Donc, le premier fait qui est donc indiscutable, c'est qu'effectivement tous les êtres humains parlent. Donc, quand on a découvert des nouvelles sociétés humaines, par exemple en Australie, c'était des sociétés humaines qui avaient un langage. On n'a jamais trouvé une société humaine qui n'a pas de langage. Donc c'est une des caractéristiques des êtres humains. Par ailleurs, on n'a jamais trouvé aucune autre espèce animale qui possède un système de communication qui soit lui aussi productif. Donc productif dans le sens de je peux fabriquer un nombre infini de phrases à partir d'un nombre fini de vocabulaire de mots. Donc, par exemple, le langage des abeilles que tout le monde connaît. On sait que les abeilles arrivent à indiquer qu'il y a une source de nourriture, à quelle distance elle se trouve, dans quelle direction. Mais on peut juste communiquer ça. On ne peut pas dire s'il va faire beau demain, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas communiquer en langage des abeilles. Donc, c'est des langages qui sont fermés. Et enfin, dernier point, toutes les tentatives d'apprendre une langue humaine à d'autres espèces ont échoué. Donc, par exemple, la plus récente, celle qui avait l'air de marcher le mieux, c'est la tentative d'apprendre la langue des signes à des chimpanzés. On voit qu'effectivement, les chimpanzés vont apprendre un assez grand nombre de mots. On arrive à un vocabulaire d'à peu près 500 mots. Rappelez-vous que les êtres humains ont plutôt 50 000, mais bon. Par contre, ce qu'on n'observe jamais, c'est le fait de placer les mots les uns derrière les autres pour fabriquer des phrases. Donc, cette étape de la syntaxe, du calcul syntaxique, ne se produit jamais, ne s'est encore jamais produit. Alors, un deuxième type d'argument, c'est qu'on peut observer que le langage est décorrélé de l'intelligence, entre guillemets, parce qu'effectivement, l'intelligence générale, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que déjà, on trouve des enfants qui fonctionnent parfaitement bien, mais qui ont un déficit spécifique pour le langage. Et on les appelle des enfants dysphasiques, ou dans une moindre mesure, les enfants dyslexiques. Ils ont un déficit pour le langage qui est vraiment tout petit, et qui se voit que quand ils apprennent à lire et à écrire. Et par ailleurs, on trouve des enfants qui ont un retard mental important, mais qui maîtrisent le langage de manière quasiment normale. Donc les enfants qui sont atteints du syndrome de William sont un exemple de ça. Alors juste, je vais vous illustrer brièvement qu'est-ce que ça veut dire, ce syndrome de Williams. Donc ici, voilà par exemple, c'est deux adolescents. Vous voyez, celui-ci a 17 ans, celui-ci a 18. Donc ça, c'est un adolescent qui est atteint du syndrome de Williams. Celui-ci est atteint de trisomie 21. Et ils ont tous les deux le même QI, vous voyez, à peu près 50, qui est un QI donc avec un retard mental très important. Et donc, dans cette tâche, les deux devaient décrire une image que vous voyez très mal ici, mais bon, il y a un petit garçon qui regarde une grenouille qui est dans un bocal. Et donc, vous voyez que l'adolescent qui a le syndrome de Williams, il vous raconte une histoire complète avec ça, avec des phrases compliquées, du vocabulaire compliqué, etc. Voilà, son langage est à peu près normal. Alors que, par comparaison, cet enfant qui est trisomique, enfin, cet adolescent, vous voyez qu'il fait seulement des phrases très simples avec un vocabulaire très simple. Donc, la richesse du langage est très différente. Quand on voit ça, en fait, on a envie de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont qui ne vont pas, en fait? Qu'est-ce qu'il a qui ne va pas, celui-ci? Il est parfait. Pourquoi il a un QI de 50? Ben, un des problèmes que ces enfants ont, c'est les représentations spatiales. Donc ici, par exemple, vous voyez, chez le même jeune homme de 17 ans, la description d'un éléphant, donc encore une fois, c'est très compliqué, il a un vocabulaire très précis. Donc ici, par exemple, il connaît le mot trompe, il connaît le mot défense qu'on trouve ailleurs. Il sait tout sur les éléphants, ce que les éléphants font, où est-ce qu'ils vivent, etc. Et quand il dessine un éléphant, ça donne ça. Donc en fait, il n'a aucune idée de comment réussir à dessiner l'éléphant. Et quand on lui dit, bah, dis-moi, c'est quoi les parties de ton dessin? Il va dire, oui, bah, ça c'était le nez, l'œil, l'oreille. Donc voilà, il essaye de mettre tous les éléments, mais il n'a aucune manière de les organiser dans l'espace. C'est des gens qui se perdent quand ils sortent dans la rue, qui ont du mal à vivre tout seuls parce qu'ils n'ont pas de carte spatiale, etc. Donc voilà. Et ça, qu'est-ce que ça nous montre, effectivement? Si on revient à ça, c'est que donc, si on pensait qu'il y a une procédure générale qui permet d'apprendre à parler, eh bien, cette même procédure générale qui permet d'apprendre à parler pourrait permettre aussi d'apprendre tout un tas d'autres choses. Et on s'attendrait à ce que les gens qui sont intelligents aient un bon langage et ceux qui ont une mauvaise intelligence, une mauvaise procédure d'apprentissage aient un mauvais langage. Et donc ça, ce que ça suggère, c'est que on a un dispositif qui nous permet d'apprendre à parler. Quand ce dispositif est intact, on peut avoir donc un langage intact malgré le reste d'autres aspects de l'intelligence qui sont touchés. Et au contraire, on peut très bien avoir une intelligence complètement normale avec juste certains aspects, donc la boîte du langage, qui serait touchée. Et c'est là où on voit des enfants qui ont un retard spécifique pour le langage. Et enfin, un troisième élément qui est très important, qui est peut-être l'argument le plus frappant, C'est ces cas où des communautés d'enfants ont réinventé un langage humain. C'est des langues qu'on appelle les créoles, d'après le créole, qui était la première langue de ce type à avoir été décrite, en fait. Et donc, ces créoles, ils se produisent dans des circonstances assez particulières. Donc, c'est des cas où on a des enfants qui vivent dans une communauté où il n'y a pas une langue naturelle autour d'eux, il n'y a pas une vraie langue. Donc, c'est des communautés, typiquement, dans le cas du créole, des communautés d'esclaves qui ont été regroupées entre elles, qui parlaient plusieurs langues maternelles différentes, et puis qui communiquaient, en fait, avec les gens qui les faisaient travailler, avec une langue qu'on appelle le pidgin, donc qui est une espèce de langue appauvrie à partir du français ou de l'anglais, en l'occurrence, dans les deux cas dont on parle ici, où, en fait, justement, on perd le côté syntaxique. Donc, dans cette langue, il y a des mots, on utilise les mots avec un sens. Par contre, il n'y a pas de conjugaison d'articles et tout ça, ça disparaît. Et pour trouver le sens d'une phrase, ben, on prend le sens des mots et on s'aide avec le contexte. Okay ? Et donc, quand on a des enfants qui grandissent dans cette communauté et qui n'apprennent comme langue maternelle que ce pidgin, on voit que, spontanément, ils vont rajouter des conjugaisons, des articles, etc. Donc, il y a le créole hawaïen dans les années 1900 qui a été bien étudié. Et beaucoup plus récemment, on a pu étudier en grand détail des créoles qui se sont produits dans des circonstances où les enfants apprenaient une langue des signes. Donc ça s'est passé au Nicaragua dans les années 80. La langue des signes, donc, c'est une langue qui a la même complexité que toutes les langues naturelles. Dans les langues des signes, il y a aussi des pronoms, et ces pronoms obéissent en fait aux mêmes contraintes que le principe C dont je vous parlais tout à l'heure. Okay. Et donc, ce qui s'est passé au Nicaragua, c'est qu'on a créé des instituts pour les jeunes sourds, et on a essayé de leur apprendre non pas une langue des signes, mais une langue orale, ce qui est évidemment très difficile puisqu'ils n'entendent pas, donc on leur fait lire sur les lèvres, etc. Mais c'est des conditions très, très délicates. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ces jeunes sourds qui étaient réunis tous ensemble dans cette école, eux, chacun de la maison, ils ont apporté des signes maison qu'ils avaient inventés pour communiquer avec leur famille. Donc ça leur a fait un premier vocabulaire de base. Et les jeunes sourds qui sont arrivés l'année suivante, ils ont appris la langue locale et rajouté un peu de complexité, et ainsi de suite. Et donc, d'année en année, on voyait chaque fois une génération supplémentaire rajouter de la complexité, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait une langue des signes qui soit aussi complexe que toutes les autres langues des signes du monde entier. Et donc ça suggère qu'effectivement, dans les choses qu'on voit dans les langues, justement, ces mécanismes, ces conjugaisons, ces articles, il y a des choses qui sont spécifiques à l'homme et qui sont rajoutées automatiquement par les bébés. Alors, pour revenir là-dessus, donc, je vous dis, il y a quelque chose d'inné dans le langage. Ça, c'est effectivement un consensus. Absolument, l'ensemble de la communauté scientifique est d'accord là-dessus. Il n'y a personne qui essaye de dire qu'il n'y a rien d'inné dans l'apprentissage du langage. Par contre, il y a encore un énorme débat sur la nature de cette prédisposition. Et donc, c'est là où on va avoir tout le range entre les très innéistes et les pas très innéistes. Alors, déjà, ce qui est clair, c'est que si on dit que quelque chose est inné pour le langage, c'est forcément quelque chose qui doit être partagé par toutes les langues du monde. On ne va pas pouvoir dire que le mot « chien » est inné, par exemple, parce que le mot « chien », c'est spécifique au français. Donc, quelque chose qui peut être inné, c'est quelque chose, comme je vous racontais tout à l'heure, le fameux principe C sur la co-référence des pronoms. Et donc, c'est ça que Chomsky a appelé, dans les années 50, la grammaire universelle. Évidemment, tout le reste, donc toutes les choses qui sont spécifiques aux langues, doivent être apprises. Donc même le plus innéiste des innéistes, il doit bien dire qu'il faut apprendre les mots, il faut apprendre les propriétés phonologiques, les propriétés des sons de la langue, et il faut apprendre toutes les propriétés syntaxiques qui sont spécifiques aux langues. Donc quand on est très très innéiste, on peut dire « Ok, moi j'achète toute la grammaire universelle et j'encode ça dans les langues ». Maintenant, il y a plein de gens qui n'aiment pas tellement ça non plus. Pourquoi ? Parce que vous avez vu la tête du principe C, c'est quand même extrêmement abstrait. Et quand on dit on va encoder ça dans les gènes, on ne voit pas très bien en fait comment faire. On ne voit déjà pas très bien comment encoder ça dans le cerveau, quelles sont les structures du cerveau qui feraient ce genre de calcul. Et donc, il y a tout un tas de gens qui disent « Ok, il y a quelque chose d'inné dans l'acquisition du langage, ça on ne peut pas y échapper, c'est forcément le cas. » Par contre, quand on va chercher qu'est-ce qui est inné, quelle est la nature de ces connaissances innées, on va essayer de chercher quelque chose d'un peu plus général que ces principes grammaticaux extrêmement précis. Et donc là, il y a tout un tas de choses qui ont été proposées. Par exemple, la capacité à effectuer des calculs récursifs qui a été proposée par Fitch, Hauser et Chomsky en 2002. Sinon, la capacité qu'on appelle de théorie de l'esprit, la capacité à penser que quelqu'un d'autre a des pensées différentes des siennes. Ou même plus récemment, par Thomas Sello, la capacité à coopérer, donc cette tendance à vouloir échanger de l'information avec ses congénères. Donc voilà, ici, le débat est ouvert. Par contre, le fait qu'il y a quelque chose d'inné, ça, tout le monde est d'accord. Et maintenant, je vais basculer donc vers des données beaucoup plus précises sur l'apprentissage extrêmement précoce de la syntaxe. Donc vous allez voir que je vais me limiter entre 0 et 2 ans à peu près. Et donc, à cet âge-là, on ne parle pas encore tellement du principe C. Ça va être des choses beaucoup, beaucoup plus simples, comme distinguer les noms des verbes. Okay. Et alors, la question qui se pose ici, c'est quelque chose que Stan disait aussi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a le problème de par où démarrer l'acquisition. Hein, quelles sont les connaissances dont on a besoin au départ. Et donc, dans le langage, quand on regarde ça, on voit qu'il y a plusieurs parties. On pourrait dire, il faut que j'apprenne les sons de la langue, il faut que j'apprenne les mots de ma langue, il faut que j'apprenne la syntaxe, il faut que j'apprenne le sens des mots. Et donc, quand on regarde quel est le problème d'acquisition, on voit que dans chacune de ces petites parties, on aimerait bien déjà avoir des connaissances dans les autres parties. Donc, par exemple, j'essaye d'apprendre la syntaxe. Donc, je vous ai dit, la syntaxe, c'est l'ensemble des calculs qui permettent de trouver le sens d'une phrase à partir des sens des mots qui la composent. Ben, tout naturellement, pendant des dizaines d'années, les gens ont dit, pour apprendre la syntaxe, il faut déjà que j'ai les mots et leur sens, et après, je peux commencer à travailler sur les phrases entières. Okay, donc, on aurait besoin du lexique ou du dictionnaire mental pour apprendre la syntaxe. Mais par ailleurs, dans les années 90, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Lila Gleitman qui a montré de manière extrêmement convaincante que la structure syntaxique serait très, très, très utile pour apprendre le sens des mots. Et donc là, on revient aussi à un problème que Stan a évoqué tout à l'heure, le problème de Quine. Hein, comment faire pour deviner le sens d'un mot? On entend le mot lapin, on regarde autour de soi, est-ce qu'il y aurait un objet qui pourrait correspondre à ce qu'on entend? Et donc, c'est un problème très compliqué. Et quand on regarde comment les gens le résolvent, on voit qu'effectivement, ils ne le résolvent pas très bien. Donc la première idée à laquelle on peut penser, c'est de dire, OK, j'entends un mot, j'ai une situation, évidemment, c'est ambigu, parce que dans cette situation, il y a plein de choses autour de moi. Donc ce que je vais faire, c'est repérer le même mot dans au moins 5 ou 6 situations différentes, et je vais chercher le point commun. Après tout, si c'était lapin, et que j'ai 5 fois un lapin, je peux trouver que le mot désignait lapin. Et donc cette chercheuse, ce qu'elle a fait, c'est ça. Elle a filmé des mamans qui parlaient avec leur bébé. Elle a repéré des mots, les mots les plus fréquents utilisés par les mamans. Donc, il y avait 24 noms et 24 verbes. Et puis ensuite, elle a pris des petits extraits de vidéos de la maman qui parle au bébé. Et elle les a regroupés ensemble de manière artificielle. Donc, mettons qu'il y avait le mot canard, 6 fois. Elle a pris 6 fois où la maman disait canard. Et ensuite, elle présente ça à des étudiants d'université. Elle présente juste la vidéo, elle enlève le son et elle met un bip au moment du mot. Et elle leur dit, maintenant, vous me devinez le mot que la maman est en train de dire à son bébé. Et ce qu'on voit, c'est que, première chose, ils sont très mauvais. Donc, pour les noms, les noms qui représentent des objets, ils sont à peu près corrects la moitié du temps. Bon, c'est pas si mal que ça. Par contre, pour les verbes, des verbes très, très fréquents, comme jouer, ils sont très mauvais. Seulement à peu près 10% du temps, ils devinent le sens correct du verbe. Alors même qu'on leur a dit qu'on essayait de deviner un verbe, hein, on les prévient. Et donc, ce qu'elle a trouvé à ce moment-là, c'est que, si à la place de la vidéo, on leur donne la structure syntaxique des phrases dans lesquelles ces verbes se produisent, ils sont déjà meilleurs, à peu près 30% corrects. Et avec la structure syntaxique et la vidéo en plus, ils deviennent à plus de 60% corrects. Okay, donc, effectivement, de savoir dans quel type de structure un mot peut se produire est très utile. Pourquoi ça marche? Ben parce que, effectivement, le sens d'un verbe va beaucoup influencer le type de phrase qui peut se trouver là. Si c'est un verbe de communication ou de pensée, comme dire ou penser, il va pouvoir prendre comme complément une proposition entière. Un verbe de transfert comme donner ne va jamais prendre une proposition entière comme complément. Il va avoir trois arguments. Hein. Donc, il y a la personne qui donne, la personne qui reçoit et la chose qui est donnée. Donc, on ne va jamais dire « je donne que tu veux quelque chose ». Ce n'est pas possible. Et donc, juste en regardant ces structures syntaxiques, on arrive à deviner quelque chose du sens du verbe. Et donc, du coup, ce qu'on va chercher à faire, donc, l'ensemble des gens qui travaillent en acquisition du langage, c'est pour essayer de briser ces circularités qu'on voit ici. Donc, j'ai besoin du lexique pour apprendre la syntaxe, j'ai besoin de la syntaxe pour apprendre le lexique, le sens des mots. Et on va essayer de trouver des sources d'informations qui sont disponibles très tôt et que l'enfant peut analyser avec des mécanismes extrêmement simples, les plus simples possibles, okay, pour lesquels il n'a pas besoin d'avoir déjà beaucoup de connaissances sur le langage. Et donc ici, je vais vous parler de deux de ces sources d'informations. D'une part, ce qu'on appelle la prosodie phrasale. La prosodie, c'est un terme technique qui représente tout simplement l'intonation des phrases, hein, donc la mélodie des phrases et le rythme. Ça va se clarifier très tôt. Et l'autre, c'est les mots grammaticaux. Les mots grammaticaux, c'est les petits mots comme les articles et les auxiliaires, les terminaisons verbales, les conjugaisons. Hein, et c'est ça aussi qui va porter la structure syntaxique. Et donc, en fait, il y a tout un tas d'expériences qui montrent que ces deux aspects du langage, l'enfant commence à les connaître très très tôt, déjà dans la première année de vie. Et donc, il pourrait s'appuyer là-dessus pour faciliter l'apprentissage de choses plus compliquées. Alors, je vais vous illustrer la présentation très rapidement sur un modèle. Pour le moment, ça va paraître un peu abstrait, ça va se clarifier au fur et à mesure. Donc ici, supposons que l'enfant entend une phrase comme « le petit garçon a mangé une pomme ». Ça, c'est une représentation du signal acoustique en bas. Excusez-moi, le pointeur ne marche plus. Et la première supposition, c'est qu'à partir de cette représentation du signal acoustique, l'enfant arrive à construire une représentation des sons qui sont là. Donc ici, j'ai écrit plus ou moins en espèce de vocabulaire phonétique. Hein, donc le petit garçon a mangé une pomme. Les choses que vous voyez en vert, ça correspond justement à ces frontières d'intonation, ces frontières prosodiques. Hein. Donc quand on parle, si on parle un peu lentement, on va facilement dire un truc comme « le petit garçon a mangé une pomme ». Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a effectivement ces trois unités. Entre les unités, il n'y a pas de pause, on ne trouve pas un silence dans le signal, on ne trouve pas non plus un silence entre les mots, hein, c'est pour ça que j'ai collé tous les mots les uns aux autres dans cette représentation. Par contre, ce qu'on a, c'est un petit ralentissement du débit à la fin d'une unité, et chaque unité a sa petite intonation propre. Hein, il y a un contour d'intonation pour chaque unité. Le petit garçon a mangé une pomme. Okay ? Et donc, la première hypothèse, c'est qu'à partir de cette représentation, qui contient donc les sons des mots, et qui contient un certain nombre de frontières, ici, les frontières vertes, l'enfant va déjà pouvoir commencer à construire son lexique. Donc ici, par exemple, une pomme, il va supposer qu'il y a peut-être un mot ou deux mots là-dedans, mais en tout cas, il ne va pas chercher les mots à cheval entre les frontières. Ces mêmes frontières, si vous regardez ici, vous voyez qu'en fait, elles ne se produisent pas n'importe où, elles se produisent à des frontières de constituants syntaxiques. Donc ça, ça correspond aussi à ce que vous avez appris à l'école primaire quand vous faisiez du découpage en unités syntaxiques. Voilà. Effectivement, donc ce découpage est marqué dans l'intonation des phrases. Et donc la deuxième hypothèse ici, c'est que ces frontières vertes peuvent servir directement pour le traitement syntaxique et les enfants pourraient les exploiter s'ils les entendent. Et le deuxième aspect important de ce modèle, c'est donc ces mots grammaticaux ou morphèmes grammaticaux que j'ai marqués ici en bleu comme le, a, le, et, de manger, une. Et donc ces petits morphèmes ici, l'idée, ces petits mots grammaticaux, c'est qu'ils peuvent être reconnus très tôt, parce qu'ils sont extrêmement fréquents dans la langue et qu'ils se produisent en bordure d'unité, comme vous voyez ici. Ils seraient identifiés et donc permettraient à la fois de faciliter l'accès aux mots et l'accès au traitement syntaxique. Pour finir ici par ce que j'appelle le squelette syntaxique, donc c'est cette idée qu'avec juste les frontières prosodiques en vert et les mots grammaticaux en bleu, on pourrait commencer à faire une première analyse du signal de parole, qui n'est pas du tout une analyse syntaxique complète, évidemment, c'est très simple, mais qui pourrait suffire pour faire des choses faciles du genre « je vais essayer de deviner le sens de ce verbe okay ». Alors maintenant, je vais vous présenter un ensemble de données. Je m'excuse pour les diapos en anglais. J'ai pensé qu'il y avait peut-être des collègues anglophones que ça aiderait un petit peu, mais je vais continuer à parler en français, évidemment. Donc, d'abord sur l'intonation. En fait, il y a tout un tas d'expériences qui nous montrent que les enfants l'apprennent très très tôt, cette prosodie phrasale, cette intonation. Et donc, par exemple, à l'âge déjà de 4 mois et demi, ils arrivent à entendre les grosses frontières d'intonation qu'on appelle de frontières de groupe intonationnel. Un peu plus tard, à 9 mois, donc vous voyez, bien avant la fin de la première année de vie, ils perçoivent ces frontières qu'on appelle de groupe phonologique, qui sont justement celles que j'ai marquées en vert sur le diagramme précédent. D'accord ? Donc, ils ont accès à cette information. Comment on teste ça ? Par exemple, en leur présentant des phrases qui ont une intonation normale et en rajoutant des pauses de une seconde, soit au bon endroit, juste là où il y a une frontière, ou bien à un mauvais endroit, entre deux mots, mais à l'intérieur d'une unité. Et on voit que les enfants préfèrent écouter les phrases qui sont bien segmentées par rapport à celles qui sont mal segmentées. Et donc, ce qu'on peut tester ici, la première expérience que je vais vous montrer, c'est une expérience qui cherche à voir si ces frontières vertes ici, les frontières d'intonation, dont on sait que les enfants les entendent déjà à l'âge de 9 mois, sont effectivement utilisées pour faciliter l'accès aux mots. Et donc pour tester ça, on fait venir les enfants au laboratoire, ici ce sont des enfants français qui ont 16 mois, et donc on les met dans une expérience où on va leur apprendre à tourner la tête pour un mot spécifique. Par exemple ici, on va apprendre à des enfants à tourner la tête pour le mot « balcon ». Donc, ils viennent deux fois au laboratoire. La première fois, on leur enseigne à tourner la tête pour « balcon ». Comment on fait ça, en fait ? Ils sont assis face à un expérimentateur qui joue avec eux en silence. Donc, il leur présente juste des objets. Et puis, sur leur gauche, il y a un haut-parleur qui joue des mots, donc peut-être le mot « vipère » en permanence. Et de temps en temps, on passe à « balcon », le mot dont on veut auquel ils doivent réagir. Et au début, « balcon », on le joue plus fort. Donc ils entendent tout d'un coup « balcon », ils sont surpris, ils tournent la tête, et à ce moment-là, il y a un petit jouet qui s'allume, par exemple un nounours qui bat du tambour. Et donc ça les amuse, ils aiment bien ça. Le coup d'après, on joue « balcon » un peu moins fort, mais ils se souviennent, ils tournent la tête, il y a le nounours qui s'allume. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où « balcon » est joué au même volume que le reste des mots qu'ils entendent par ailleurs. Et donc chaque fois qu'ils tournent la tête pour « balcon », il y a le nounours qui s'allume. Et donc c'est ça leur motivation à tourner la tête pour « balcon ». Une fois qu'ils ont bien fait ça, Donc une fois qu'on peut montrer qu'il tourne la tête quand il y a balcon et il ne tourne pas la tête quand il y a balcon, donc il y a un petit test statistique qui est effectué sur un certain nombre d'essais, ils reviennent la semaine suivante et là, on leur fait écouter des phrases entières. Et voyez que dans ces phrases, certaines contiennent vraiment le mot balcon, comme ici, la rangée de balcons fait face au cloître du monastère, et d'autres contiennent les deux syllabes de balcon, mais à cheval, sur une de ces frontières d'intonation, comme la grande salle de bal confère un air solennel au château. Et quand on fait une expérience avec les adultes, on voit que dans cette deuxième phrase, eux, ils n'entendent pas du tout le mot balcon. Eh bien, les enfants non plus, les enfants ici de 16 mois. Donc, ce que vous voyez là, c'est les enfants qui ont été entraînés à tourner la tête pour le mot balcon. En bleu, vous avez les phrases balcon, et en jaune, vous avez les phrases qui contiennent les deux syllabes de balcon, mais pas le mot balcon lui-même. Et vous voyez qu'effectivement, ils répondent plus souvent pour les phrases qui contiennent balcon que pour celles qui ne contiennent pas balcon. Et ici, vous avez un groupe contrôle, un groupe d'enfants qui a été entraîné à tourner la tête pour le mot bal, et eux, ils montrent le comportement inverse. Donc effectivement, ils tournent la tête plus souvent pour les phrases qui contiennent bal que pour celles qui contiennent balcon. Donc ça, ça nous montre que les enfants de 16 mois sont déjà capables d'interpréter ces frontières d'intonation, ces frontières vertes, comme des frontières entre deux mots. Donc ils utilisent ces frontières pour deviner où sont les mots dans les phrases. Alors la deuxième étape, comme je vous disais, c'est d'utiliser ces frontières, qui sont aussi des frontières de constituants syntaxiques, pour contraindre à l'accès au lexique, donc pour effectuer un calcul syntaxique. Un calcul syntaxique, pas l'accès au lexique. Alors là, c'est des expériences pour le moment qu'on a faites que avec des adultes, parce que c'est effectivement déjà assez difficile à faire avec des adultes, et on n'a pas encore trouvé moyen de faire ça avec les enfants, mais ça ne saurait tarder. Et donc pour tester ça, on choisit ici des mots qui sont ambigus. Donc c'est des mots qui peuvent avoir plus qu'une catégorie syntaxique, comme le mot mort ici. Donc dans la première phrase, vous avez ce mot mort qui est un verbe, le petit chien mord la laisse qui le retient. Et ici, dans la phrase d'en dessous, vous avez le même mot mort, mais qui cette fois est un adjectif. Le petit chien mort sera enterré demain. Si vous regardez les débuts des deux phrases, jusqu'au mot mort inclus, vous voyez qu'elles contiennent en fait les mêmes mots. On a le, petit, chien et mort. Mais dans un cas, c'est un verbe, et dans l'autre, c'est un adjectif. Et la seule différence entre les deux, c'est l'intonation. Vous avez pu l'entendre quand j'ai prononcé les phrases. Dans la première, il y a une frontière d'intonation juste devant mort. Le petit chien mord la laisse qui le retient. Okay, le petit chien mord la laisse. C'est petit, mais c'est là. Dans la deuxième, au contraire, le mort se trouve à l'intérieur de la même unité que le petit chien. Ça fait le petit chien mort sera enterré demain. Et donc la question qu'on pose, c'est est-ce que les adultes exploitent cette frontière d'intonation, l'intonation de la phrase, pour deviner très rapidement, avant même d'avoir entendu les mots qui suivent, s'il s'agit d'un verbe ou d'un adjectif. Et alors, pour tester ça, on leur a demandé de faire plusieurs choses, mais la plus simple, c'est de couper la fin de la phrase. Donc ils n'entendent que les quatre premiers mots, le petit chien est mort. Et ensuite, ils doivent simplement écrire la fin de la phrase selon eux. S'ils nous terminent la phrase en pensant que mort était un verbe, ils vont continuer avec un nom, sinon ils continuent avec un verbe. Okay. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, des adultes qui entendent ces phrases, quand ils entendent une phrase qui contient un adjectif, ils vont effectivement, la plupart du temps, continuer cette phrase avec un adjectif, tandis que quand ils entendent une phrase qui contient un verbe, ils vont, la plupart du temps, continuer cette phrase avec un verbe. Donc ça, ça nous dit qu'ils sont capables d'entendre cette information. On a fait d'autres expériences qui ont montré en plus que ces indices d'intonation, ces indices prosodiques, étaient exploités en temps réel. Donc maintenant, si on demande aux adultes de faire une tâche en temps réel, ici une tâche de détection de mots abstraits, dès l'instant où ils entendent le mot, ils exploitent déjà l'information prosodique et n'ont pas besoin d'attendre la fin de la phrase. Et en plus, là, c'était des phrases qui étaient prononcées par moi, en l'occurrence, on peut dire que moi, j'avais mis une particulièrement bonne intonation. On a refait l'expérience en faisant lire les phrases par des gens qu'on a pris dans la rue, et ça marche également bien. Donc cette intonation, tout le monde la produit spontanément, et les adultes exploitent. Alors, où on en est dans le modèle? Ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, à partir de cette représentation qui contient donc les sons, on a directement accès à ces frontières d'intonation, on les utilise pour trouver les mots dans les phrases, et on les utilise aussi pour faire du traitement syntaxique. En tout cas les adultes, probablement les bébés, mais on n'a pas encore pu le tester. Alors la deuxième source d'information dont je vous parlais, c'était les mots grammaticaux. Donc les articles, les auxiliaires, les terminaisons verbales, encore un article ici, et cette notion que les mots grammaticaux pourraient servir à construire une première ébauche de structure syntaxique, ce qu'on appelle le squelette syntaxique. Alors, tout d'abord, les mots grammaticaux, pendant des années, en fait, on pensait que les jeunes enfants ne les entendaient pas. Pensaient qu'ils ne les entendaient pas parce qu'ils sont quand même très petits. Hein, on ne met jamais un accent sur le. Hein, le, il est toujours prononcé pas très fort. On pensait aussi qu'ils ne les entendaient pas parce que, typiquement, ils ne les produisent pas beaucoup, ils ne les prononcent pas. Donc, un enfant de 2 ans, quand il commence à parler, souvent, il va faire de la parole télégraphique, c'est-à-dire qu'il va dire « manger gâteau », mais pas « j'ai mangé un gâteau » ou « je veux manger un gâteau ». Donc, il garde juste les mots qu'on appelle de contenu, donc justement l'inverse des mots grammaticaux, donc ceux qui ont du sens, comme « manger » ou « gâteau », et « le », « la », « un », « une », tout ça, ça a tendance à disparaître. Et c'était d'autant plus vrai en anglais, où les mots grammaticaux sont encore plus réduits parce qu'il y a ce phénomène d'accent de mots. Et donc, pendant des années, on pensait, en fait, ces mots grammaticaux, les enfants ne les entendent pas, ils ne les traitent pas au début, ils ne travaillent que sur la sémantique et seulement après, ils commencent à travailler sur la syntaxe. Aujourd'hui, on a complètement basculé dans l'autre sens. On pense qu'au contraire, les enfants commencent par apprendre les mots grammaticaux et ils les utilisent pour travailler sur le sens des mots. Et donc, pourquoi ils commencent par les apprendre? D'abord, c'est simplement qu'ils sont extraordinairement fréquents. Donc, comme on a vu, il y a eu une grande bascule dans la littérature vers ces mécanismes statistiques qui sont basés quand même en grande partie sur la fréquence. Et donc, effectivement, c'est facile de repérer ces items qui sont très, très, très fréquents. Et les enfants pourraient les repérer à cause de ça. Ils ne sont pas juste fréquents, ils sont également très courts et situés sur les bords. Et donc, ça aussi, c'est une position qui est particulièrement saillante, qui est facile à repérer. Donc, les débuts, les fins sont faciles à repérer. Les mots grammaticaux, ils sont précisément là, au début et à la fin des unités prosodiques. Donc, ils ont tout pour être faciles à trouver. Et effectivement, à partir des années 90 environ, il y a tout un tas d'études qui a montré que des très jeunes enfants, moins de 1 an, connaissent déjà quelque chose des mots grammaticaux de leur langue. Pas forcément tout, évidemment, ils ne savent pas forcément qu'il y a des déterminants, des auxiliaires, etc. Par contre, ils savent que le, la, les, un, une, je, tu, tout ça, c'est des mots particuliers du français. Alors, les toutes premières expériences ont été faites par Louane Gerken, une chercheuse américaine, qui a simplement remplacé les mots grammaticaux de l'anglais par des faux mots grammaticaux. Elle a fait écouter ça à des bébés de 11 mois, par exemple, et elle a trouvé qu'effectivement, ils préféraient écouter le vrai anglais que l'anglais modifié avec les faux mots grammaticaux. Après, il y a eu tout un tas d'expériences plus détaillées. Donc, par exemple, si on regarde une des plus récentes ici, en 2008, c'est une chercheuse qui s'appelle Ruchen Shi, qui a fait énormément de travaux dans ce domaine au cours des dernières années. Elle travaille à l'Université de Québec à Montréal et donc elle travaille aussi sur le français. Et donc elle a montré par exemple que les enfants de 8 mois donc, connaissent déjà les mots grammaticaux mais en plus les utilisent pour savoir que si j'entends un mot grammatical comme le suivi d'un autre mot que je ne connais pas, mettons le das, qui est un mot inventé ici, je vais savoir que le, je peux l'enlever et donc il me reste das qui est un mot. Et donc comment elle a testé ça? Vous voyez ici, elle a présenté à des enfants des choses comme des preuves, où des est un mot grammatical et preuve est juste un mot assez rare dont elle pense que les bébés de 8 mois ne le connaissent pas déjà. Et ensuite, elle leur a proposé pendant le test d'écouter preuve ou d'écouter un autre mot rare. Et les enfants qui avaient été familiarisés avec des preuves préfèrent effectivement écouter preuve au moment du test. Le groupe contrôle, c'est des enfants qui avaient été familiarisés avec autre chose qui n'est pas un mot grammatical ici, qu'est. Donc ils entendaient qu'épreuve. Et eux, ce qu'ils ont pensé, manifestement, c'est que qu'épreuve, c'était un seul mot. Donc au moment du test, quand on leur présente preuve tout seul, ils ne l'ont pas reconnu. Donc on voit qu'effectivement, très très jeunes, les enfants reconnaissent les mots grammaticaux, savent que quand ils ont un mot grammatical comme ça, pas n'importe où, ici en plus, c'est important qu'il soit au début, probablement, ils savent que le truc qui suit, ça, c'est probablement ce qui devrait rentrer dans leur lexique. Alors, les mots grammaticaux, ils sont aussi extrêmement utiles pour faire l'analyse syntaxique, bien évidemment. Ils nous donnent beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, nous, les adultes, si on entend une phrase comme « je jorime », on peut tout de suite savoir que « jorime » est un verbe du français. Et donc, si on cherche le sens de « jorime », probablement, ça va être une action. Donc, quand on cherche dans l'environnement, on va chercher plutôt une action. Si on entend la jorime, toujours nous les Français, on sait que jorime est un nom et donc probablement réfère à un objet. D'accord ? Et alors effectivement, il y a déjà tout un tas d'expériences qui suggèrent que oui, les enfants commencent à faire ce genre de généralisation. Donc par exemple, ici, une expérience avec des enfants allemands de 16 mois qui suggère qu'ils savent déjà à cet âge-là qu'il y a une classe des articles et que quand ils entendent un article, donc comme le lalé, mais der Nidas en allemand, ils savent qu'ils peuvent s'attendre à trouver un nom derrière. La même, toujours Ruchen Shi et ses collègues, avec des enfants de 14 mois en français, pareil, il semblerait qu'ils connaissent déjà la classe des articles, pas encore celle des pronoms, comme je, tu, il, on. Okay. et une expérience dans mon laboratoire avec aussi d'autres collègues qui montrent que maintenant un peu plus vieux, donc déjà à 2 ans, hein, ils savent effectivement faire cette inférence que je vous décrivais là-haut. Donc quand ils entendent « je dase », ils savent que « daser » est un verbe et qu'il faut qui va représenter une action, pardon. Tandis que quand ils entendent « la dase », ils vont chercher un objet qui pourrait correspondre à ce mot « dase ». D'accord ? Alors ça, c'est très joli, mais ça ne marche pas toujours. Hein, donc, ici, par exemple, en français, on a ce petit problème qu'il y a certains mots grammaticaux qui sont ambigus. Donc, par exemple, dans la phrase « je la mange », elle est parfaitement correcte, on a « la » suivi de quelque chose, ici « mange », mais « mange » n'est pas un nom, c'est un verbe. Okay ? Et pourquoi on a ce problème ? Parce qu'effectivement, ce mot-là, ça peut être soit un article, soit ce qu'on appelle un pronom critique-objet, donc le truc qui remplace le complément d'objet direct et qui se place, en l'occurrence, devant le verbe. Et on a ça avec le lalé. On n'a pas ça qu'en français, on a ça dans toutes les langues romanes. On n'a pas ça non plus que dans toutes les langues romanes. On trouve ça dans un paquet de langues dans le monde entier. Et ce n'est pas du tout un hasard, en fait. C'est parce qu'effectivement, là, ça pourrait être la pomme dont je mange la pomme. Hein, et le pronom qui représente la pomme, ben, c'est son déterminant, justement. Hein. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on trouve ça. Ce n'est pas une bizarrerie du français. Et donc, la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que les enfants ont appris, finalement ? Est-ce qu'ils ont appris un truc de relativement bas niveau, à savoir je plus quelque chose, je cherche un verbe, là plus quelque chose, je cherche un nom, ou quelque chose d'un peu plus compliqué qui leur permettrait de savoir que si c'est je plus là, alors de nouveau je dois chercher un verbe, tandis que si c'est là tout seul, alors je dois chercher un nom. Et donc pour tester ça, on a regardé des enfants de 2 ans et on leur a présenté des phrases qui étaient soit correctes, soit incorrectes. Donc ici, voilà des exemples de phrases correctes qui contiennent soit un verbe comme mange, soit un nom comme fraise. Vous voyez que le mot crucial est toujours précédé par ce mot-là, hein, donc le mot ambigu. Et pour créer les phrases incorrectes, on a simplement interverti les noms et les verbes. Donc vous avez « alors elle la mange », qui est une phrase parfaitement correcte. À la place de « mange », vous mettez « fraise », et vous obtenez cette phrase-là qui est incorrecte. « Alors il la fraise ». Okay. Bon, ça, c'est vrai que « fraiser » existe en français, mais c'est un mot très rare et les enfants ne le connaissent pas. Et puis de la même manière, vous avez une phrase comme « la poule prend la fraise ». Ici, c'est correct. Vous remplacez ce mot « fraise » par « mange » et vous obtenez cette phrase qui est incorrecte. Okay ? Et donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que les enfants de 2 ans savent déjà que ces phrases-là sont incorrectes ? Ou bien, est-ce qu'ils pensent qu'elles sont correctes ? Ils pourraient penser qu'elles sont correctes parce que, en fait, localement, elles sont pas mal. Hein. Donc, la fille, c'est bien. Fille prend, c'est bien aussi. Prend là, c'est bien. Et la mange, c'est bien aussi, puisqu'on le trouve là. Hein, donc, si on regarde de proche en proche, tout va bien dans cette phrase. C'est juste quand on met tous les mots ensemble où là, vraiment, il y a un problème. Donc, c'est un calcul un peu plus compliqué que juste regarder, ah oui, est-ce que ce mot-là va avec cet autre mot ? Tous les mots vont bien ensemble, mais l'ensemble ne va pas. Et dernière question, comment faire pour tester si les enfants savent quelles sont les phrases correctes et les phrases incorrectes ? Ce n'est pas très facile de leur faire ça. Tout à l'heure, quand je vous disais Stephen Crane avait fait des expériences comme ça, c'était avec des enfants de 3 ans. 2 ans, c'est assez difficile de leur faire répondre à une question comme ça. Donc ici, on utilise une technique qui est la technique des potentiels évoqués, où on va juste mesurer l'activité électrique du cerveau. Et donc, pendant qu'ils font l'expérience, on leur présente une vidéo avec une personne qui joue avec des Playmobil, juste pour les garder occupés. Je vais passer ça, en fait, ce n'est pas très intéressant. Et donc voilà juste une photo d'un bébé avec le filet sur la tête. Et donc c'est du travail qui est fait en collaboration avec Ghislaine de Anne Lamberts. Donc voilà les résultats. Ce que vous voyez ici, c'est donc l'activité électrique mesurée à la surface du crâne, okay, pendant que les enfants écoutent les phrases correctes et incorrectes. Si vous regardez un de ces diagrammes, vous voyez ici la tête du bébé vue d'en haut, ça c'est le nez, l'oreille gauche, l'oreille droite. D'accord ? Et donc ce que vous voyez ici pour les phrases incorrectes, c'est une grosse activité positive autour de l'oreille gauche, plus ou moins, dans les zones temporelles, les zones qui traitent le langage, qu'on ne retrouve pas pour les phrases correctes. Et effectivement, la différence entre ces deux conditions est très significative. Donc ça, ce que ça nous permet de dire, c'est qu'effectivement, les enfants de 2 ans sont déjà capables de fabriquer des attentes syntaxiques en temps réel. Donc quand ils entendent « je là », ils s'attendent à trouver un verbe. Quand ils entendent « je prends là », ils s'attendent à trouver un nom. S'ils trouvent un mot de l'autre catégorie, ils sont surpris. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ils ne sont pas gênés par cette homophonie entre les articles et les pronoms clitiques-objets. Comme je vous disais tout à l'heure, localement, les phrases sont bonnes. Hein, elle plus là, c'est bon. Là plus fraise, c'est bon aussi. C'est juste elle, la fraise en entier qui n'est pas bon. Donc les enfants font quelque chose de plus compliqué que juste regarder si toutes les paires de mots sont correctes. Hein, ce n'est pas un calcul de fréquence aussi stupide que ça. Par contre, ils pourraient faire un calcul de fréquence un tout petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'elles la mangent, ils l'ont sans doute déjà entendu dans leur vie, parce que c'est quand même des mots fréquents, tandis qu'elles la fraisent jamais. Et donc, la différence qu'on observe, elle pourrait être due, c'est pas très plausible, mais elle pourrait être due au fait qu'un ensemble de phrases a une fréquence zéro, hein, les phrases incorrectes, tandis que les phrases correctes ont déjà pu être entendues par le bébé, tout simplement parce que c'est des mots très fréquents qu'on a utilisés du vocabulaire connu. Et donc, le seul moyen de contrôler ça vraiment, de savoir qu'est-ce que le bébé a déjà entendu, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu avant, c'est d'utiliser des phrases qui sont des mots qu'on a appris nous-mêmes au bébé. Comme ça, on a vérifié nous-mêmes qu'est-ce qu'il avait entendu, qu'est-ce qu'il n'avait pas entendu. Donc, c'est des mots qu'on va leur enseigner pendant la première session, pendant une première session. Ils reviennent une semaine plus tard pour faire l'expérience. Donc, voilà par exemple des mots. Ça, c'est un douze, un touze, ça, c'est un rane. Donc, c'est un vautour et un tricératops. Et il y avait aussi des actions nouvelles qui étaient dumé et pouné. Donc, il y en a une qui veut dire sceller un cheval et l'autre qui veut dire pêcher. Et il y a des petits Playmobil pour leur enseigner facilement ces nouveaux mots. Et alors, pendant qu'on leur enseigne les nouveaux mots, on utilise plein de phrases différentes qui contiennent ces mots. Mais, crucialement, on en garde une pour le test. Donc, ils n'entendent jamais le suivi du mot. Ils n'entendent jamais le touze, par exemple. On leur dit « Oh, c'est un touze, tu as vu ?» C'est un joli touze, c'est difficile à faire, c'est notre touze, voilà, mais jamais le touze. Okay, donc l'étudiante qui a fait ça a dû s'entraîner beaucoup pour jamais prononcer ça. Et de la même manière pour les verbes, elle ne va jamais dire je le dume, hein, elle va dire. je ne vais pas essayer de vous le faire, je vais me tromper. Et donc voilà. Ensuite, le dessin de l'expérience était exactement le même. Hein, donc on avait des phrases incorrectes et des phrases correctes. Alors pour vous, c'est plus difficile à voir maintenant, mais les phrases correctes, c'est quand on a les verbes et les noms dans la bonne position. Et les phrases incorrectes, on a juste échangé les noms et les verbes. C'est exactement comme tout à l'heure. Et ce qu'on voit ici, exactement avec le même type d'expérience, c'est que, à nouveau, pour les phrases incorrectes, on a une réponse différente de la réponse qu'on a pour les phrases correctes, avec ici une différence significative. Et donc ça nous montre que les enfants de 2 ans, quand ils entendent des phrases avec des mots nouvellement appris, donc pour le coup, la fréquence de toutes ces phrases était de zéro, hein, aucune des phrases n'avait jamais été entendue, on voit que malgré tout, ils distinguent les phrases correctes des phrases incorrectes. Et donc, ça nous montre que, à cet âge-là, ils sont déjà capables donc, de calculer en temps réel des attentes, hein, ils savent que je le prédit un verbe, tandis que je prends le prédit un nom, alors même qu'ils n'avaient jamais entendu ces mots dans les contextes en question. Hein, donc, c'est des contextes qu'ils connaissent par ailleurs. Donc, ils ont vraiment une catégorie des noms, une catégorie des verbes. OK. Et donc, la question qu'on veut poser maintenant, donc là, c'est juste un résultat. Je ne vous dis pas comment ils ont fait pour apprendre. Je vous dis, ben, à 2 ans, ils ont déjà appris vachement de trucs, en fait, parce qu'effectivement, ils savent distinguer entre ces mots grammaticaux qui sont ambigus, qui peuvent des fois correspondre à des noms, des fois à des verbes. Et la question qu'on veut vraiment savoir, qu'on veut vraiment poser, c'est comment ils font pour apprendre tous ces contextes de noms et de verbes. Et donc, pour tester ça, on a fait un petit modèle d'ordinateur, en fait. Donc, on a pris une maman qui parlait à son enfant. On a pris toutes les phrases que la maman prononce. On donne ça à un ordinateur avec un certain modèle et on va voir est-ce qu'il arrive à apprendre les contextes de noms et de verbes. Et donc, évidemment, on va lui donner un peu d'informations. On va mettre un petit peu d'inné dans ce modèle. Et on va voir qu'est-ce qu'il arrive à apprendre avec les règles d'apprentissage qu'on lui donne. Donc c'est directement une expérience pour tester si c'est possible d'apprendre dans les circonstances qu'on teste. Et donc l'hypothèse qu'on va tester ici, dans ce modèle particulier, on va supposer que pour apprendre les contextes de noms et de verbes, l'enfant va se baser sur un tout petit nombre de noms et de verbes qu'il a réussi à apprendre par ailleurs. Par exemple, on va dire, l'enfant a réussi à apprendre, mettons, boire et manger. C'est 2 actions très fréquentes, très concrètes, observables dans l'environnement. Les parents, ils parlent souvent de boire et de manger. Allez, mange ta soupe et tout ça. Et ayant appris ça, il va repérer que ces 2 choses-là représentent toutes les 2 des actions. Il va dire, OK, je vais faire une catégorie avec ces 2 mots-là, boire et manger, et peut-être quelques autres que je vais rajouter dedans petit à petit. Et ensuite, ce qu'il va regarder, l'enfant, c'est tous les contextes dans lesquels on trouve boire et manger. Et ensuite, généraliser à d'autres mots qu'il ne connaît pas encore. Donc, ça serait, ah tiens, voilà, dasé, je l'ai trouvé dans le même contexte que boire et manger. Sans doute, ça réfère aussi à une action. D'accord ? Alors, comment ça marche ? Donc, il apprend à prendre quelques mots très fréquents, c'est ce que je vous ai dit, ça c'est boire et manger. Il regroupe les actions ensemble, il va regrouper de la même manière les objets ensemble, dans la même catégorie. Et donc, pour tester ce modèle, on l'entraîne sur ce corpus, comme je vous disais, donc d'une maman qui parle à son bébé. Et donc là, nous, dans le corpus, on a catégorisé ensemble, juste par exemple, 2 verbes les plus fréquents et 6 noms les plus fréquents, juste parce que ça faisait à peu près le même pourcentage du corpus. Ensuite, on a fait un autre modèle qui en savait un peu plus, il connaissait 12 noms et 4 verbes, un autre modèle qui en connaissait encore plus, 24 noms et 8 verbes, etc. Pour voir effectivement, est-ce que c'est important de connaître beaucoup de vocabulaire pour que ça marche, ou bien est-ce qu'avec un tout petit vocabulaire, ça peut marcher déjà. Et comment fait le modèle pour mémoriser les contextes? Alors là, vraiment, c'est le plus simple du plus simple. Il fait juste une collection. Donc, il va repérer toutes les suites de 3 mots dans son immense corpus. Donc, il passe de mot en mot et il mémorise toutes les suites de 3 mots. Donc, par exemple, mettons qu'il a rencontré « je la mange et je la bois ». Les « mange et bois », pour ce modèle-là, il savait tous les deux que c'était des verbes. Donc, pour lui, il aura rencontré 2 fois « je la verbe ». Et il compte le nombre de fois où il a rencontré chaque trigramme. C'est vraiment stupide, il ne fait que compter. Ensuite, au moment du test, il va prendre chaque mot d'un corpus de test qu'il n'a pas encore vu. C'est toujours une maman qui parle à son bébé, sauf que c'est des phrases nouvelles, il ne les a pas vues avant. Il va prendre tous les mots qui ne sont pas trop fréquents. Il ne va pas essayer de catégoriser « là » et « je ». Il va catégoriser des mots justement comme « manger » et « boire ». Quand il trouve un mot pas trop fréquent, il regarde les 2 mots qui sont à gauche et il dit « ah bon, mettons que c'était « je là », j'ai « je là ». Et bien, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon corpus d'apprentissage le plus fréquemment après « je là » ? Si c'était un verbe, je réponds « verbe ». Si c'était un nom, je réponds « non ». Si c'était « girafe », je réponds « girafe ». Okay. Si c'était ni un nom et un verbe, il répond le mot qu'il a trouvé là, qui était le mot le plus fréquent. Et alors ensuite, bon là ça devient un tout petit peu technique, mais en gros, pour mesurer s'il est correct ou pas, on mesure 2 choses. D'abord, on mesure la précision, est-ce qu'il est très précis ? Donc c'est le nombre de fois où il a répondu correctement, divisé par tout le nombre de fois où il a répondu non, par exemple, non ou verbe. Et donc, là, effectivement, ça répond à cette question. Quand le modèle donne une réponse non, N-O-M, je vais dire avec verbe, c'est plus facile. Quand le modèle donne une réponse verbe, est-ce qu'il est correct ou pas ? Et puis, la deuxième mesure, c'est ce qu'on appelle le rappel. Donc, cette fois-ci, on prend encore une fois les réponses correctes divisées par le nombre total de verbes qu'il y avait dans le corpus. Donc, et ce que ça nous dit, c'est eh bien, combien de verbes il a trouvé, en fait, et combien de verbes il a raté. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les résultats. À gauche, la précision, à droite, le rappel, en haut, les noms, en bas, les verbes. On va regarder que les noms, par exemple, les résultats sont semblables. Donc, vous voyez ici 2 choses. En bleu, c'est les réponses du modèle. En noir, c'est les réponses d'un modèle qui répond au hasard. Donc, déjà, vous voyez que le modèle, il est bien meilleur que le hasard. Ensuite, ce que vous voyez ici en ordonnée, c'est la taille du vocabulaire que le modèle connaissait au départ. Donc, ici, c'est le plus simple. Il connaissait que 6 noms et 2 verbes. Et là, à la fin, c'est un modèle qui connaissait déjà tous les noms et tous les verbes au départ. C'est juste pour voir jusqu'où on peut aller quand on sait vraiment tout. Et donc, le premier résultat très intéressant, vous voyez ici, c'est que le modèle, il est extraordinairement bon, en fait. Ici, vous voyez, 85% correct. Depuis le tout début, même quand il connaît que 6 noms et 2 verbes, quand il répond verbe, c'est en général correct. 85% correct. Donc, il est déjà très bon. Ici, dans le rappel, vous voyez par contre qu'au début, quand il connaît très peu de verbes, ben en fait, il ne répond pas verbe très souvent. Donc, il ne trouve que 20% des verbes. La plupart des verbes, il ne les reconnaît pas. Par contre, quand il répond verbe, c'est correct. Okay ? Et au fur et à mesure que son vocabulaire s'accroît, vous voyez qu'il répond verbe de plus en plus souvent. Donc, ça, c'est ce que cette courbe nous dit en montant. Par contre, il est toujours aussi précis, c'est toujours aussi juste. Quand il dit verbe, c'est également correct. Alors là, il y a juste quelques exemples des contextes que le modèle utilise. Après, quand on regarde dans le modèle, bon, c'est quoi les contextes qu'il a utilisés le plus souvent ? Donc ici, en vert, vous voyez des contextes qui marchent très très bien. Essayez peut-être même pas de comprendre le tableau, il est un peu compliqué. C'est juste ici à gauche les contextes. Ici, c'est le nombre de fois où il a répondu non et le nombre de fois où ce contexte était suivi d'un nom et le nombre de fois où ce contexte était suivi d'un verbe. Et donc le modèle répond non si ce chiffre est plus grand et répond verbe si ce chiffre est plus grand. Ici, vous voyez que c'est les contextes de non, il répond en fait non tout le temps. Tous ces contextes que j'ai surlignés en vert ici, vous voyez qu'on a toujours, juste avant le mot critique, un article. Ici, on a un, des, le, une, de, la, verbe, du, la, une. Okay, donc les articles, ça marche très bien pour trouver les noms, on était d'accord. Et vous en avez quelques-uns que j'ai mis ici en orange. C'est aussi des articles, le, de, la, les, sauf que c'est les fameux articles qui sont ambigus, ça se voit dans la traduction en anglais. C'est ceux qu'on ne sait pas bien traduire parce qu'ils veulent dire 2 choses différentes. Et donc là, vous voyez que la plupart du temps, ils sont suivis d'un nom, mais quelquefois aussi d'un verbe. Par exemple, je veux le manger. Okay. Et donc du coup, le modèle répond non, c'est correct. Par contre, on va voir tout à l'heure pour les verbes, ici. Pardon. Que ce même contexte ici, dont je veux le manger, cette fois-ci, le modèle se trompe, puisqu'il répond non, alors que c'était un verbe. Donc, dans certains cas, quand il y avait un verbe dans cette position, le modèle se trompe. Et donc, pour conclure sur ce modèle, ce qu'on voit, c'est que contrairement au bébé de 2 ans de l'expérience de potentiel évoqué que je viens de vous présenter, le modèle il se trompe quand il y a un mot grammatical ambigu. Okay, donc, il n'a pas réussi à apprendre ces choses-là. Et effectivement, si on teste le même modèle, au lieu de prendre des suites de 3 mots, on avait pris 3 mots exprès pour résoudre le problème de elle, la fraise, n'est-ce pas? Et bien en fait, avec 2 mots, le modèle, il est presque aussi bon. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une bonne précision avec juste le mot qui précède, mais on ne peut pas résoudre ces difficultés que les enfants de 2 ans résolvent. Et donc ça nous dit 2 choses ici, c'est qu'effectivement, les êtres humains, ils font quelque chose d'un peu plus compliqué que ce modèle, qui est effectivement particulièrement stupide. C'est une démarche volontaire. Si on essaye de savoir qu'est-ce qui est possible d'apprendre avec un mécanisme, le mieux est de prendre le mécanisme le plus simplifié possible. Après, on voit les limites et on complexifie si on a besoin. Mais c'est bien de commencer par le plus simple. Et donc, effectivement, une des choses que le modèle fait mal, c'est que lui, il n'a qu'une catégorie de verbes. Tous les verbes, on les appelle verbes. Mais tous les verbes ne sont pas identiques, comme on disait. C'est justement pour ça qu'on peut utiliser la structure syntaxique pour deviner le sens des verbes. Donc, par exemple, je prends la mange, c'est incorrect, parce que prendre, ce n'est pas un verbe qui peut prendre un complément verbal. Mais si on avait un verbe comme vouloir à la place, on pourrait dire je veux la manger, et là, ça devient parfaitement correct. Okay, donc, le modèle qui a une seule catégorie verbe, il est effectivement trop simpliste. Et ça nous dit aussi que les enfants de 2 ans ont déjà des représentations plus fines des verbes que juste ça. Donc, pour résumer ça, je vais sauter ça. Voilà. Le modèle, quand même, il fonctionne pas trop mal. On était content avec 85% correct. Mais malgré que ça soit déjà très bon, il est toujours largement moins bon que les bébés de 2 ans. Et donc, ce qu'on voudrait tester maintenant, c'est savoir exactement, en fait, à quel point... Donc, je finis très rapidement. À quel point les humains sont bons. Je vais juste vous donner une petite idée de type d'expérience qu'on fait. Et donc, ça, c'est une expérience qui simule un bébé de 18 mois avec des adultes. Donc, comment on fait pour simuler un bébé de 18 mois, cette fois? On va lui présenter des phrases dans lesquelles on a gardé l'intonation correcte, parce qu'on sait que les bébés perçoivent bien l'intonation. On a gardé tous les mots grammaticaux corrects, parce qu'on sait que les bébés les connaissent déjà. Par contre, on a enlevé tous les mots de contenu, les noms, les verbes et tout ça. Parce qu'effectivement, le bébé de 18 mois, il n'a pas encore un gros vocabulaire. La plupart des mots, il ne les connaît pas encore. Et donc, ça donne un truc comme ça, une bamoule drisse frolité d'agout. On pourrait représenter par une expo doit se dérouler demain. D'accord? Et ce qu'on va voir, c'est, est-ce que les adultes, quand ils entendent des phrases comme ça, ils savent que dans la première, bamoule est un nom, et dans la deuxième, bamoule est un verbe. Et pour faire ça, on leur demande de détecter des mots. Donc, soit ils doivent détecter bamoulé ou bien une bamoule. Quand c'est bamoulé, ils doivent répondre à la deuxième et pas à la première. Quand c'est une bamoule, ils doivent répondre à la première et pas à la deuxième. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les adultes sont très, 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 très bons. Donc, vous voyez ici, pour les phrases non, ils répondent presque toujours non et jamais verbe. Et pour les phrases verbes, presque toujours verbe et jamais non. Donc, on va sauter tout ça. Et donc, juste pour voir comment ils se débrouillent, eux, avec les mots ambigus. Et donc, si on leur présente « je la pire dalle », par rapport à hier la pire dalle, ils sont parfaits. Que la pire dalle et qui la pire dalle, ils sont parfaits. Donc le bamoule qui la pire dalle, en fait, lui, c'est un verbe. Et dans le bamoule que la pire dalle, lui, c'est un nom. Eh bien, ils font ça en temps réel, les gens. 600 millisecondes de réaction. Ils savent automatiquement lequel est un nom, lequel est un verbe. Donc les adultes sont très, très bons. Voilà, ça, c'est la conclusion. Même avec les mots grammaticaux ambigus. Et donc, tout ça juste avec le squelette syntaxique, donc ils n'ont que les mots grammaticaux et la prosodie. Et donc, en conclusion générale, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, avant l'âge de 18 mois, les enfants perçoivent déjà très bien l'intonation des phrases, la prosodie. Ils connaissent énormément de choses sur les mots grammaticaux de leur langage. Ils savent dans quel contexte les noms et les verbes se produisent. Ils sont même capables de construire des attentes en temps réel sur est-ce que ça va être un nom ou est-ce que ça va être un verbe qui va apparaître. Ils pourraient apprendre les contextes de noms et de verbes en recherchant les contextes communs à un petit nombre de noms et de verbes qu'ils ont appris. Ça, c'est ce que le modèle nous a montré. Et avec juste ce fameux squelette syntaxique, les expériences adultes nous montrent qu'en fait, on peut avoir une excellente connaissance de la structure syntaxique des phrases, et même en temps réel. Voilà. Et donc, du coup, ce squelette syntaxique, avec des sources d'informations, comme vous avez vu, quand même très, très simples au départ, juste l'intonation et ces petits mots grammaticaux, pourraient être suffisantes pour faciliter l'acquisition du sens des mots et l'acquisition de la syntaxe. Merci.